votre rendez-vous avec l'actualité et avec Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
La police a de nouveau été déployée sur plusieurs campus américains, théâtre depuis 15 jours d'une mobilisation étudiante contre la guerre à Gaza qui secoue désormais tout le pays d'est en ouest.
Oui, on s'intéressera à la réponse des autorités dans le contexte très particulier de la campagne pour la prochaine présidentielle. Et puis on fera le point également sur la mobilisation en France. La Russie a-t-elle eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainiennes ? Moscou qualifie ce matin d'infonder les accusations américaines. À suivre également le lancement en France aujourd'hui d'une commission d'enquête sur les violences dans le cinéma. On en parlera avec notre invitée Geneviève Cellier, professeure émérite en études cinématographiques à l'université Bordeaux-Montaigne. Enfin, comment remédier au manque de soignants à l'hôpital ? Certains établissements se tourneraient aujourd'hui vers les agences d'intérim spécialisées dans la santé. Qu'une guerre aussi tragique et controversée que celle en cours à Gaza depuis bientôt 7 mois soit devenue partout un objet de débat qui pourrait s'en étonner que chacun ensuite s'identifie légitimement, soit à une cause, soit à l'autre, semble tout aussi attendu. Ce qu'il est peut-être moins en revanche, c'est l'ampleur de la contestation étudiante mondiale qui secoue désormais les universités américaines, européennes et au-delà, de New York à Paris jusqu'à Beyrouth. Les images de manifestations de soutien aux Palestiniens et contre la guerre de représentation menée par l'État hébreu dans la bande de Gaza font aujourd'hui le tour de la planète. En l'occurrence, c'est aux États-Unis que les divisions profondes autour du conflit israélo-palestinien sont sans doute les plus marquées, avec une émotion rarement vue depuis les mobilisations contre la guerre du Vietnam. Et de manière assez étrange, face à ce mouvement qui ne cesse donc de prendre de l'ampleur, eh bien Joe Biden, lui, ne dit toujours rien, ou presque. Pourquoi, à 6 mois de l'élection présidentielle, le chef de la Maison-Blanche préférerait-il éviter de s'exprimer sur un sujet susceptible de plomber sa campagne? Élément de réponse avec Valérie Crova.
L'entourage de Joe Biden surveille de près la mobilisation sur les campus, mais espère que la crise se tassera d'ici le mois de novembre. Tiraillé entre son soutien à Israël et le risque de perdre celui des jeunes électeurs qui lui sont majoritairement favorables, le président démocrate table sur un accord de cessez-le-feu à Gaza dans les prochaines semaines, ce qui aurait pour effet de faire taire la contestation dans les universités. En cas d'échec, Joe Biden pourrait devenir le premier président démocrate à ne pas être le bienvenu sur les campus universitaires. La Maison-Blanche a néanmoins confirmé qu'il prendrait la parole le 19 mai prochain lors de la remise des diplômes au Morehouse College d'Atlanta, en Géorgie, l'un des campus de la communauté afro-américaine les plus importants des États-Unis, en hommage à Martin Luther King. D'anciens élèves ont fait circuler une lettre dans laquelle ils demandent l'annulation de sa visite. La politique de Joe Biden à l'égard d'Israël irait, selon eux, à l'encontre du pacifisme promu par Martin Luther King lors de la guerre du Vietnam. À l'époque, Joe Biden, qui étudiait le droit à l'université de Syracuse, était resté à l'écart de la contestation.
Alors, il se trouve qu'en France aussi, ce mouvement de soutien aux Gazaouis prend de l'ampleur. Cette semaine, les instituts d'études politiques, notamment, sont à leur tour entrés dans l'action. Des blocages ont d'ailleurs été signalés ce matin encore sur un site universitaire de Saint-Étienne. Idem pour les accès à l'école supérieure de journalisme de Lille et toujours dans la capitale des Hauts-de-France. L'institut d'études politiques reste pour l'heure fermé. À cela s'ajoute un vaste débat sur la question israélo-palestinienne organisé en ce moment même à Sciences Po Paris, épicentre de cette contestation étudiante. De son côté, la ministre déléguée à l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, réunissait elle ce matin en visioconférence l'ensemble des directeurs d'établissements universitaires pour faire le point sur la situation et leur demander expressément de veiller au maintien de l'ordre public. Enfin, on pourrait noter encore que des organisations humanitaires, dont Médecins du Monde et Amnesty International, ont déployé ce matin près de la Tour Eiffel une grande banderole réclamant un cessez-le-feu à Gaza. Alors jusqu'à quel point cette mobilisation étudiante est-elle surévaluée ou non ? Faut-il craindre une contagion comme aux États-Unis ? Non, répond Pierre Mathiot, enseignant à Sciences Po Lille, dont il était encore le directeur il y a quelques semaines. Il explique pourquoi à Stéphane Robert.
Il y a au maximum quelques dizaines ou quelques centaines d'étudiants au total qui sont engagés en France. Donc c'est très très limité par rapport à ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques semaines, où là pour le coup, alors qu'au départ c'était quelques universités d'élite américaine, de ce qu'on appelle la Ivy League, donc de la côte Est, qui s'engageaient, et là maintenant le mouvement est en train de prendre dans des universités beaucoup moins cotées, et ça devient un mouvement national, probablement lié à la campagne présidentielle qui a commencé aux États-Unis, et puis probablement lié aussi au fait qu'aux États-Unis, peut-être plus encore qu'en France, la problématique du soutien à Israël et en retour de l'absence de soutien aux Palestiniens est quelque chose qui est en train de devenir un mot d'ordre important de la jeunesse qui est plutôt démocrate. Et oui, c'est devenu un enjeu véritablement de la campagne présidentielle avec des risques pour Joe Biden. Donc, je pense que la situation est différente aux États-Unis par rapport à la France. Ça explique que ce soit beaucoup plus important aux États-Unis. Et je note quand même qu'aux États-Unis, vous l'avez vu, les réactions de la police sont sans commune mesure avec ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, là, c'est des centaines de policiers qui investissent purement et simplement les bâtiments universitaires, qui arrêtent les étudiants, qui les menottent et qui les emmènent. On est évidemment des années-lumière de voir cela en France, et heureusement.
Pierre Mathieu, enseignant à Sciences Po Lille, il répondait à Stéphane Robert. Alors, combien de temps encore la souffrance des uns ne pourrait être reconnue que dans la négation de celle des autres? Seule certitude, l'espoir de parvenir, sinon à la paix, du moins à une trêve dans la bande de Gaza, demeure pour l'instant un vœu pieux. La nuit dernière, un haut responsable du Hamas a même indiqué que la position du mouvement islamiste était pour l'instant négative, même si des discussions sont toujours en cours. En réalité, l'organisation réclame un cessez-le-feu permanent, ce que les autorités israéliennes refusent, se disant toujours déterminées à poursuivre leur offensive jusqu'à la victoire totale, ce qui inclut notamment une opération terrestre à Rafah, dernier grand bastion selon elle du Hamas, et où s'entassent et plus encore survivent 1,5 million de Palestiniens affamés.
Enfin, toujours cette guerre entre Israël et le Hamas a conduit hier un troisième pays à rompre ses relations diplomatiques avec l'État hébreu.
Oui, après la Bolivie, après le Belize, c'est la Colombie, autre État d'Amérique latine, qui a décidé de fermer sa porte avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qualifié, je cite, de génocidaire dans sa conduite de la guerre à Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères a aussitôt réagi en qualifiant le président Gustavo Petro d'antisémite. Les précisions d'Étienne Monin.
Avec cette position, la Colombie revendique son virage politique à gauche et elle monte dans le train des positions tranchées en Amérique du Sud contre l'opération militaire israélienne. Historiquement, la Colombie était l'allié des États-Unis, premier soutien d'Israël. L'Amérique a financé la lutte contre les narcos et la guérilla. Mais la droite a cédé la place à l'ancien militant de la guérilla, Gustavo Petro, il y a 2 ans. Il est le premier président de gauche élu en Colombie. Il a amorce avec cette position un virage en politique étrangère vis-à-vis d'Israël et indirectement des États-Unis. Le président colombien avait déjà dénoncé la violence de l'opération militaire en février dernier. Il avait évoqué un génocide contre les Palestiniens. Il avait alors soutenu le président brésilien qui avait créé une première onde de choc en comparant la violence de l'offensive israélienne avec l'extermination des Juifs par les nazis. Les deux pays ont soutenu la procédure de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. La Colombie s'aligne aujourd'hui sur la Bolivie, le Belize, qui ont rompu leurs relations avec Israël. Le soutien de l'Amérique latine aux Palestiniens a pris de l'ampleur dans les années 2000 avec la vague rose. 17 pays ont reconnu l'État de Palestine. La diaspora palestinienne est importante sur le continent. L'occupation israélienne trouve un écho important dans cette région qui a longtemps lutté contre l'hégémonie américaine. Dans son discours hier, le président Petro a parlé d'un gouvernement génocidaire en Israël. La direction du Hamas a parlé d'une victoire pour les sacrifices du peuple. Le ministre israélien des Affaires étrangères estime, lui, que c'est une récompense pour les meurtriers et les violeurs du Hamas.
La Russie a-t-elle eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainiennes?
C'est en tous les cas l'accusation portée par le département d'État américain qui précise l'utilisation de ces produits chimiques ne serait pas un incident isolé. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors on parle là en l'occurrence de la chloropicrine, un produit utilisé comme pesticide, mais aussi comme agent de guerre.
Oui Thomas, il s'agit d'une substance duale qui est employée, comme vous l'avez mentionné, dans le secteur agricole comme fumigant, mais elle peut aussi être intégrée dans des obus ou des munitions pour un usage militaire, ou comme arme anti-émeute pour disperser des manifestants. Hautement toxique, la chloropicrine provoque des effets irritants, immédiats sur les yeux, le nez, la gorge, avec un effet suffocant. Son utilisation est prohibée par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, la CIAC, dont la Russie est signataire. Si cet usage était avéré, il s'agirait clairement d'une violation du droit international. Alors pour Washington, cette utilisation sur le champ de bataille ukrainien de cet agent chimique ne serait pas isolée et sans doute motivée par le désir des troupes russes de déloger les soldats ukrainiens de leurs positions fortifiées et de réaliser des avancées tactiques sur le front. Ce type de munition ne peut être employé de manière massive car des vents contraires pourraient ramener cette substance gazeuse vers ceux à l'origine des tirs. Alors de son côté, la Russie a qualifié de totalement infondé les accusations américaines. Moscou répète ne plus détenir d'arsenal d'armes chimiques militaires. Le Kremlin, qui en retour accuse l'Ukraine d'avoir recours à ce type de munitions, accusation démentie par Kiev.
Merci Christian Chéneau. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Angleterre et au Pays de Galles pour des élections locales à l'allure de test pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak à quelques mois maintenant d'un scrutin national. Les résultats ne sont pas attendus avant dimanche après-midi.
Il est 12h40, vous écoutez France Culture et c'est la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Quand l'Assemblée en France s'empare des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma et au-delà d'ailleurs, l'audiovisuel, le spectacle vivant mais aussi la mode et la publicité, ce matin les députés ont adopté donc à l'unanimité la création d'une commission d'enquête. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Geneviève Cellier, professeure émérite en études cinématographiques à l'université Bordeaux-Montaigne, par ailleurs animatrice du site de critique féministe Le Genre et l'Écran. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors dans le détail, cette commission portée par la députée écologiste Francesca Pasquini sera chargée d'évaluer la situation des mineurs, d'identifier les mécanismes, les défaillances qui permettent d'éventuels abus et violences et bien sûr d'établir les responsabilités de chaque acteur en la matière. Peut-être pour commencer, que sait-on déjà des facteurs qui favorisent donc les violences sur les tournages et dans l'industrie du cinéma plus largement ?
Alors il y en a plusieurs, il y en a qui sont caractéristiques de l'ensemble du cinéma de fiction et de son fonctionnement depuis sa création, c'est-à-dire le fait que il y a une asymétrie genrée qui est structurelle dans le cinéma, où les femmes sont, on demande d'abord aux femmes d'être désirables, et alors que les hommes sont en général sujets de l'action, du pouvoir, de la pensée, etc. Donc, il y a cet aspect-là qui existe aussi à Hollywood, et je dirais que la spécificité du cinéma français, c'est le culte de l'auteur qui fait que le cinéma n'est pas considéré, en tout cas dans ses aspects les plus prestigieux, comme une industrie, mais comme un art. Et à partir de là, s'est constituée l'idée que l'expression artistique des réalisateurs considérés comme des artistes doit primer sur toute autre considération. Et donc, il y a eu une sorte de permission qui a été donnée à un certain type de profil d'exercer un pouvoir sans aucune limite. Et cette dimension-là, articulée avec... disons, les effets les plus pervers de la soi-disant libération sexuelle depuis les années 80, a eu pour résultat que les actrices ont été systématiquement soumises à des injonctions d'hypersexualisation, de nudité systématique, etc., dont Juliette Binoche a parlé de manière extrêmement claire dans l'entretien qu'elle a donné récemment à Libération.
Alors le blanc-seing donné jusqu'à présent au réalisateur l'a été notamment au nom à la fois de la politique des auteurs et de la liberté de création. Comment est-ce que les comportements abusifs de certains réalisateurs et autres personnes en position de pouvoir se relient à ces grands principes du cinéma français ?
Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on décide que la liberté artistique ne doit pas avoir de limites, ça favorise forcément des profils de prédateurs. Le problème, c'est l'absence de contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est complètement illusoire de penser que parce que quelqu'un serait génial, et encore qui le dit, il faudrait se soumettre à toutes ses volontés, et on sait très bien que sur le résultat de ce postulat, c'est que sur les plateaux, il n'y a pas seulement du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement moral. C'est-à-dire que le réalisateur est autorisé, et heureusement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais malheureusement, l'humanité n'est pas exempte de ce genre de dérive, fonctionne comme un tyran. Et bon, l'idée que... la création suppose un pouvoir tyrannique, me semble indéfendable en régime démocratique. Et je ne vois pas pourquoi la créativité serait favorisée par la terreur qu'exercerait un homme sur une équipe.
C'est bien compris, on terminera par ces mots. Merci beaucoup Geneviève Cellier, professeure émérite en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montaigne. Je précise que votre livre, Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français, paraîtra aux éditions de La Fabrique en septembre prochain. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Dans l'actualité de ce jeudi également, cette question, Emmanuel Macron peut-il tourner la page de la crise agricole?
Oui, le chef de l'État recevait ce matin les syndicats et autres représentants des filières à l'Élysée pour évoquer donc les perspective de l'agriculture à la fois française et européenne. Or, à l'heure de la réconciliation espérée par l'exécutif, il est une question, Rosalie Lafarge, qui reste à trancher pour le camp macroniste en vue des élections européennes, c'est celle du sort réservé à l'eurodéputé Pascal Canfin, président de la Commission Environnement au Parlement européen, est devenu depuis un épouvantail pour une partie du monde agricole.
Deuxième de la liste il y a 5 ans, où sera-t-il cette fois-ci? Pascal Canfin fera-t-il d'ailleurs même partie des effectifs macronistes engagés pour ce scrutin? Rien n'est tranché, tout peut encore bouger, entend-on dans les rangs de la majorité, où le cas de l'ancien ministre de François Hollande, passé par Europe Écologie Les Verts, divise. Son nom a pu être cité au moment où le camp présidentiel cherchait encore sa tête de liste, sauf qu'ensuite, la crise agricole est passée par là, et Pascal Canfin, c'est l'un des pères du Pacte Vert européen, dossier particulièrement urticant pour des organisations syndicales agricoles et notamment la FNSEA. Au plus fort des blocages, l'ex-président du WWF France est alors un peu tombé en disgrâce. Soutenu par une partie de l'état-major de Renaissance, jurant ici de ne pas le lâcher, insistant là sur son bon boulot au Parlement européen, promettant là encore qu'il aurait un rôle à jouer le moment venu, Pascal Canfin semble désormais en un peu moins mauvaise posture. Parce qu'au risque du message de renoncement écologique susceptible d'être associé à une importante rétrogradation de l'eurodéputé, s'ajoute désormais le problème Raphaël Glucksmann. Le candidat à Place Publique PS talonne la tête de liste présidentielle Valérie Ayé dans les sondages et donne raison, au moins sur un point, à Pascal Canfin, qui évoquait il y a 2 mois déjà l'enjeu pour les macronistes d'aller reparler à ce qu'il appelle l'électorat Cohn-Bendit, hésitant entre le PS, les Verts et la majorité. S'il entend, lui, porter cette voix, il y a aussi posé ses conditions, faisant savoir dès le premier meeting de Valérie Ayé à Lille qu'il n'était pas là pour faire de la figuration.
Le calendrier est propice cette année, on le sait, au long week-end de mai, ce qui inquiète notamment les hôpitaux déjà sous tension. À la veille des ponts du 8 mai et de l'Ascension, le manque de soignants risque de se faire encore plus ressentir, d'où la tentation de certains établissements aujourd'hui de se tourner vers les agences d'intérimaires spécialisées dans la santé. Victor Dolande, bonjour.
Bonjour.
Dans les hôpitaux parisiens, de la PHP en particulier, Victor, l'intérim tourne à plein régime, plus 26% au premier trimestre.
Oui, sur les 38 hôpitaux en Ile-de-France, ce sont surtout les infirmiers qui manquent à l'appel. Et pour ne pas fermer certains services, la direction de la PHP a massivement eu recours à l'intérim, plus 26% sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année dernière. Dans certains établissements, l'intérim explose carrément, plus 145% de missions d'intérim, par exemple à l'hôpital Beaujon, situé à Clichy. Pour sa défense, la direction des hôpitaux parisiens nous assure que cette augmentation du recours à l'intérim est conjoncturelle. Cette tendance doit, je cite, s'inverser à partir du mois de mai dans l'objectif de réduire au global les dépenses d'intérim. Car c'est le problème, ce recours aux intérimaires coûte cher, très cher à la PHP, plusieurs dizaines de millions d'euros en plus des budgets déjà prévus.
Et il n'y a pas qu'en Ile-de-France, donc on continue de recourir à l'intérim, partout les médecins manquent et malgré le plafonnement prévu l'an dernier, Victor, les dépassements et les dérogations se multiplient.
Oui, depuis le 1er avril 2023, un médecin intérimaire ne peut pas être payé plus de 1390 euros bruts pour assurer une garde de 24 heures. Ça, c'est la loi, sauf que dans les faits, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, assure l'urgentiste Eric Reboli, président du syndicat des médecins remplaçants hospitaliers.
Ça ne fonctionne toujours pas. L'ARS, avec le soutien évidemment des directeurs d'hôpitaux, a dépassé largement ses plafonds. Il les a explosés, même on peut dire, puisque depuis un an, il y a des dérogations tous les jours, partout, pour sauver les hôpitaux et les services.
Nous avons pu consulter des dizaines d'offres d'intérim. L'hôpital d'Orléans propose par exemple une garde aux urgences le dimanche, payée 2500 euros bruts. Même tarif offert à Nevers. À l'hôpital de Bourges, c'est plus de 2600 euros pour la même vacation. On est presque 2 fois au-dessus du tarif légal et à chaque fois, c'est l'Agence régionale de santé qui valide ces dérogations.
Merci Victor Dolande. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, encore perturbé avec de nouvelles précipitations sur la majeure partie du territoire. En revanche, le long de la façade atlantique, le temps deviendra plus changeant avec de courtes éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.